Radio France Internationale, 8h ici à Paris et à Kinshasa, il est 7h en temps universel.
Nemo en peace.
Et à la une de votre journal, Simon Bourtembourg, la prise de Bukavu ce week-end par les rebelles du M23.
Kinshasa dénonce l'occupation de la capitale provinciale du Sud Kivu. Des hommes de la milice soutenus par le Rwanda ont été vus dans le centre de la ville congolaise de près d'un million d'habitants. Le dossier de ce journal avec Pauline Azidi en direct de Kinshasa dans quelques instants. Reportage à suivre également. Nous serons à Damas où les anciens détenus de Sednaya se sont réunis pour réclamer justice. À la une également des ex-otages du groupe État islamique, les yeux dans les yeux avec leurs bourreaux. Ouverture aujourd'hui à Paris du procès des geôliers de Daesh en Syrie. 5 djihadistes sont accusés notamment d'avoir retenu en otage 4 journalistes français entre 2013 et 2014. Dans quelques minutes dans ce journal, nous appellerons notre correspondant en Allemagne au lendemain du débat télévisé qui réunissait pour la première fois de l'histoire les 4 principaux prétendants à la chancellerie. Et puis de la politique, il en était aussi question aux États-Unis à l'occasion du 50e anniversaire de l'émission culte Saturday Night Live. Impertinence et autodérision étaient au rendez-vous, nous le verrons.
En République démocratique du Congo, le M23 s'empare de Bukavu.
Les rebelles et les soldats rwandais ont donc poursuivi leur avancée dans le sud Kivu. Bukavu, capitale provinciale, est désormais occupée. Des colonnes de soldats ont été observées hier matin dans la ville de près d'un million de personnes. On rejoint notre correspondante à Kinshasa. Bonjour Pauline Azidi.
Bonjour.
À l'image de Londres qui a exprimé une crainte d'un conflit régional plus large, nombre de chancelleries occidentales s'inquiètent d'une nouvelle dégradation de la situation, tout comme le gouvernement congolais, Paulina.
Oui, hein, le week-end, vous le disiez, a été marqué par cette nouvelle offensive du M23 et des soldats rwandais au sud Kivu qui a conduit à l'occupation de Bukavu, deuxième capitale régionale désormais sous contrôle du M23 et son allié après Goma au nord Kivu. Une situation bien sûr dénoncée ici à Kinshasa par les autorités. Contrairement aux résolutions de Dar es Salaam, aux appels au cessez-le-feu de la communauté internationale, le Rwanda s'entête dans son dessein d'occupation, de pillage, de crimes et de violation des droits humains, écrivait hier le ministère congolais de la communication sur X dans une première réaction officielle. Un communiqué qui fait référence au cessez-le-feu réclamé par les régions est-africaines et australes lors d'un sommet extraordinaire en Tanzanie les 7 et 8 février dernier. Plusieurs résolutions y ont été adoptées, mais elles n'ont pas été mises en place.
Et Paulina, avec cette avancée, les rebelles se rapprochent des frontières du Burundi, ce qui crée une véritable inquiétude.
Il y a un risque de régionalisation du conflit, a prévenu le secrétaire général des Nations Unies. Il faut dire que le ton est monté ces derniers mois entre Gitega et Kigali, le Burundi qui a des militaires engagés aux côtés des forces congolaises contre le M23 et son allié rwandais. Et ce week-end, le chef de l'armée ougandaise, fils du président Museveni, a lui menacé de prendre Bunia, capitale de la province de l'Ituri. Alors difficile hein, de savoir quelle crédibilité donner à ces paroles, d'autant plus que l'armée ougandaise est actuellement déployée dans l'est de la RDC, mais dans le cadre d'une opération conjointe avec le groupe armé ADF.
Enfin, ce conflit...
Contre le groupe armé ADF, excusez-moi.
Pardon, Pauline. Enfin, ce conflit a été aussi en partie absent des déclarations du sommet de l'Union africaine qui vient de se terminer en Éthiopie.
Oui, alors si ce conflit a été omniprésent dans les coulisses, hein, très peu de déclarations officielles en ont fait mention. Le commissaire paix et sécurité de l'UE a évoqué le risque d'une balkanisation de la RDC et a appelé au retrait immédiat du M23 et de ses partisans sans jamais nommer le Rwanda, dont le soutien à la rébellion est avéré par plusieurs rapports des experts des Nations Unies et documenté depuis presque le début de ce conflit, il y a 3 ans. Depuis tout ce temps, l'Union africaine n'a jamais pointé la responsabilité du Rwanda dans cette crise, contrairement aux déclarations de plus en plus fermes, vous en parliez, des chancelleries occidentales.
Paulina Zidi en direct de Kinshasa, merci à vous. L'actualité africaine encore et ce premier signe de vie un mois après l'enlèvement d'Alassane Souleymane. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le haut fonctionnaire nigérien apparaît le regard hésitant, lisant un message qu'il tient entre ses mains tout en levant le regard vers la caméra. Le 11 janvier dernier, Alassane Souleymane était enlevé par le Jenim, dans le parc national du W au sud du pays.
Le président syrien par intérim en visite dans l'ex-fief de Bachar al-Assad.
Ahmad al-Shara à Latakia et Tartous, un premier déplacement officiel dans ces provinces, terre du président déchu. Le nouvel homme fort syrien a rencontré des dignitaires et des notables locaux dans ces régions côtières de l'ouest du pays. Plus au sud, à Damas, les ex-détenus du pouvoir continuent, eux, de demander justice. Dans la capitale syrienne, une association œuvre pour soutenir les victimes de la prison de Sednaya. C'est là que Manon Chaplin a rencontré un ancien détenu. Reportage.
C'est la première fois qu'Ahmed remet les pieds à Sednaya, cette prison son tombeau comme il l'a longtemps surnommée. Il y a été emprisonné durant 6 ans, puni pour avoir rejoint les rebelles de l'armée syrienne libre. Face à l'immense bloc de béton gris, il tombe dans les bras d'un homme, son ancien co-détenu.
On a tous tellement souffert. Tous les jours, la famine, les maladies, ce n'était pas vivable. Mais on était ensemble, on mangeait, on dormait ensemble. On était à 20 dans la cellule, puis un de nos co-détenus est mort, nous n'étions plus que 19. Aujourd'hui, j'ai l'impression de renaître.
L'impression de renaître, de devoir tout réapprendre. Ahmed souffre d'insomnie, de troubles post-traumatiques. Aujourd'hui, il est venu devant Sednaya pour trouver des réponses, réclamer le soutien du nouveau gouvernement.
Seul Dieu pourra vraiment nous aider. Mais on demande tout de même un peu d'aide, surtout de l'aide médicale, un soutien psychologique. On demande aussi du travail, que l'on puisse gagner nos vies. Aujourd'hui, on est tous handicapés, on ne peut pas travailler.
Face à Sednaya, une estrade a été montée. Les témoignages d'anciens prisonniers réunis au sein de l'association des détenus de la révolution syrienne s'enchaînent. Créée au lendemain de la chute de Bachar al-Assad, elle demande à ce que les crimes de l'ancien régime soient jugés. Mohamed al-Mourasht, l'un des fondateurs.
Les gardiens, le directeur de la prison et les juges qui nous ont condamnés doivent être jugés. Nous demandons justice car même nos familles ont été victimes d'arnaques. Ils leur faisaient croire qu'on pouvait être libéré si elles donnaient de l'argent.
Le nombre de disparus dans les prisons est aujourd'hui estimé à 100 000 personnes. Manon Chaplin à Damas, RFI.
Eux ont sévi en Syrie pour le compte du groupe État islamique. 5 hommes sont accusés d'avoir séquestré et torturé des otages occidentaux.
Les tortionnaires du groupe État islamique en Syrie, jugés en France, un procès qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris, composée de magistrats professionnels. 12 ans après leur brutale captivité, 4 journalistes français, notamment ex-otages, feront face à 3 de leurs bourreaux. Parmi eux, Mehdi Nemmouche, l'homme aujourd'hui âgé de 39 ans, a déjà été condamné en 2019 à la perpétuité en Belgique. C'était alors pour l'attentat du musée juif de Bruxelles. Ceux qui ont assisté à ce procès gardent le souvenir d'un homme dur et mutique. À Bruxelles, Jean-Jacques Herry.
Chaque jour du procès de 2019, Philippe Blondin venait s'asseoir dans la salle d'audience du palais de justice de Bruxelles. Pendant 2 mois, il n'a entendu que quelques mots sortir de la bouche de Mehdi Nemmouche, un accusé mutique, se souvient le président du musée juif de Belgique.
C'était un homme tout à fait froid, un poisson tout à fait froid, étranger à ce qui se passait. Il était dans son monde, il n'était pas là.
Une attitude qui sera sans doute la même pour ce nouveau procès, redoute-t-il, face à ceux qui ont reconnu l'homme qui les a torturés en Syrie.
Cet homme va aller regarder ces 4 journalistes comme il l'a regardé les personnes qui se trouvaient dans la salle en 2019 avec aucun regret, aucun sentiment.
Déjà à l'époque, les anciens prisonniers étaient venus témoigner devant le tribunal, décrivant un homme violent, cruel et sadique. Un moment fort et une des seules fois où Mehdi Nemmouche avait réagi, raconte Jacques Laruelle qui suivait le procès pour le journal La Libre Belgique.
Un moment, Didier François raconte qu'il avait pas mal de discussions avec Nemmouche qui le provoquait et qu'il appelait mon petit Didier. Et là, tout d'un coup, Nicolas Hénin a dressé le doigt en direction de Mehdi Nemmouche. Il s'en souvient, il sourit, a-t-il crié.
En Belgique, on espère que ce nouveau procès permettra d'éclairer davantage la période des préparatifs des attentats ultérieurs à celui du musée juif, ceux commis en 2015 et 2016 en France et en Belgique par la même nébuleuse islamiste. Mais pour cela, il faudra que les accusés parlent. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
RFI, 9h09 à Beyrouth, où le Hezbollah appelle les nouvelles autorités libanaises à pousser Israël à se retirer du pays, conformément aux nouveaux délais impartis dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Les troupes israéliennes doivent quitter dès demain le territoire libanais. Voilà le message du chef du Hezbollah dans un discours télévisé. De son côté, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes aériennes hier contre des sites du mouvement islamiste. Une semaine décisive aussi pour la trêve dans la bande de Gaza. Le cabinet de sécurité israélien doit doit se réunir aujourd'hui pour discuter de la suite de l'accord de cessez-le-feu. Benjamin Netanyahou a par ailleurs envoyé une équipe de négociateurs israéliens, cette fois au Caire. Le Premier ministre israélien s'est entretenu hier à Jérusalem avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les deux hommes se sont montrés offensifs face au Hamas, leur ennemi commun, Benjamin Netanyahou, allant jusqu'à menacer d'ouvrir les portes de l'enfer à Gaza si tous les otages ne sont pas libérés.
Simon, les États-Unis sont également à la manœuvre pour la paix en Ukraine.
Washington, qui reste tourné vers Moscou dans ses négociations, pas du goût d'une quinzaine de dirigeants européens qui se réunissent aujourd'hui à Paris. Alors que Donald Trump assure qu'il rencontrera très bientôt Vladimir Poutine, l'Europe, au pied du mur, tente de sortir la tête de l'eau sur le dossier ukrainien. Muriel Paradon.
Face aux prises de positions américaines et à l'accélération sur le dossier ukrainien, les Européens doivent faire plus, mieux et de manière plus cohérente pour assurer leur sécurité. Déclaration de l'Élysée à quelques heures d'une réunion de plusieurs dirigeants européens à Paris. La volonté de Donald Trump de vouloir négocier directement avec la Russie la fin de la guerre en Ukraine a pris tout le monde de court. Les Ukrainiens n'arrêteront pas la guerre tant qu'ils n'auront pas les garanties d'une paix durable, a rétorqué le chef de la diplomatie française ce week-end, et ces garanties, seuls les Européens pourront les apporter. Reste à se mettre d'accord et à savoir jusqu'où les Européens peuvent aller. La réunion de ce lundi doit rassembler un certain nombre de pays et pourrait être élargie par la suite à d'autres. Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, mais bien de la sécurité en Europe. La question de l'armement sera cruciale, alors que les budgets consacrés à la défense au sein des pays de l'UE sont pour l'instant limités.
Muriel Paradon.
En Allemagne, les législatives en ligne de mire.
La dernière ligne droite dans la campagne électorale des législatives qui aura lieu dimanche prochain. Une campagne électrique à l'image d'un débat télévisé inédit hier soir. Pour la première fois dans l'histoire de la télévision allemande, les quatre principaux prétendants à la chancellerie étaient tous réunis. Pascal Thibault, vous êtes notre correspondant à Berlin. Vous avez suivi cette soirée de débat. Alors que faut-il en retenir ?
Alors on avait quatre personnes sur le plateau hier soir, bien sûr le tenant du titre Olaf Scholz qui souhaite être réélu, il affrontait son challenger, le favori des sondages, le chrétien démocrate Friedrich Merz, à leur côté se tenait l'actuel ministre de l'économie, le vert Robert Habeck et la présidente du parti d'extrême droite AfD. Alors trois thèmes ont dominé le débat hier soir, l'immigration, l'économie mais aussi les dossiers diplomatiques, l'immigration qui domine la campagne depuis quelques semaines après plusieurs attaques meurtrières évidemment. Friedrich Merz est apparu plutôt détendu, il est favori avec 30% dans les sondages, il faut surtout qu'il évite un faux pas. Olaf Scholz, dont le parti reste largement distancé avec environ 15% dans les sondages, il a plutôt joué l'attaque, il faut dire qu'il n'a plus rien à perdre. Le vert Habeck a paru un peu pâle hier soir et Alice Weidel s'est présentée comme la seule qui défend les Allemands mais n'a pas brillé par des réponses concrètes. Elle a été fermement attaquée par ses trois adversaires. Un sondage à chaud montre que pour un tiers des personnes interrogées, c'est Friedrich Merz qui était le plus convaincant, suivi pour un quart des Allemands d'Olaf Scholz. Les quatre candidats étaient en tout cas tous d'accord sur un point, interrogés sur une participation au Dschungelcamp de la même chaîne RTL, l'équivalent de Koh-Lanta en France, et bien tous privilégient l'alternative proposée, être dans l'opposition plutôt que d'aller dans un camp en Australie.
À Pascal Thibault, correspondant de RFI à Berlin.
Et puis les Américains fêtaient ce week-end l'anniversaire de l'émission culte Saturday Night Live.
À 3 heures de show en direct de New York pour célébrer 50 saisons de sketch et de performances musicales. Tous les ingrédients du Saturday Night Live étaient réunis hier soir pour ravir des millions d'Américains. Edouard Maille était lui aussi devant sa télévision à Atlanta.
C'est l'acteur et comédien Steve Martin qui a ouvert l'émission avec le monologue traditionnel et dès l'entrée, quelques attaques contre Donald Trump. Même si le président n'est jamais nommé, l'humoriste lance une pique sur le changement de nom du golfe du Mexique par le golfe d'Amérique.
Je n'arrive pas à croire que je suis arrivé ici à temps. On m'a prévenu il y a seulement quelques jours que je faisais le monologue. J'étais en vacances sur le bateau d'un ami sur le golfe de Steve Martin.
Un autre invité arrive sur scène, l'acteur Martin Short, qui plaisante « Je pensais qu'on allait présenter l'émission ensemble ». Puis Steve Martin lui demande s'il a son passeport. Lui qui est canadien et fait appel à deux agents des forces de l'ordre de l'immigration qui débarquent dans leur blouson floqué du logo de ICE, l'acronyme de ces autorités.
Non, non, je vais coopérer, je vous donnerai des noms.
Très peu de références ont ensuite été faites sur le président, mais lors du rituel du faux journal télévisé, plusieurs blagues sont faites contre le nouveau gouvernement.
C'est un honneur et un plaisir de présenter les infos du week-end pour la 50e saison de SNL, même si le président aimerait que ce soit la dernière.
Donald Trump a par le passé été invité sur l'émission, ce qui avait créé de vives tensions entre la direction et certains employés. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
C'était le journal de Simon Bourtembourg, 8h15 ici à Paris. On vous retrouve Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale. Et la une, ça pourrait être le titre d'un film, l'Europe contre-attaque.
Au lendemain d'une conférence de Munich tumultueuse et d'une semaine diplomatique parmi les plus douloureuses de leur existence, les dirigeants européens tentent d'esquisser une sortie de crise, s'exclame le Figaro à Paris. Celle-ci prend la forme d'une conférence sur la sécurité européenne convoquée ce lundi à Paris par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a invité dans la capitale française les dirigeants des principaux États membres de l'UE, le Royaume-Uni, ainsi que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, avec pour but de renforcer la sécurité du continent et d'accroître son influence diplomatique dans une négociation de paix ukrainienne qui semble leur échapper.
Et en effet, il y a urgence à réagir face à l'attitude des Américains.
C'est ce que souligne El País à Madrid. L'Union européenne est confrontée à une crise stratégique sans précédent en raison du changement de politique étrangère des États-Unis qui sont passés du statut de partenaire fiable à celui de partenaire hostile envers leurs alliés du vieux continent. Les contacts de Trump avec Poutine pour négocier la paix en Ukraine dans le dos de Kiev et de Bruxelles, légitimant ainsi l'expansionnisme russe et portant atteinte au droit international, constituent non seulement un mépris pour les Ukrainiens et les Européens, mais marquent également, pointe le quotidien espagnol, un tournant qui exige une réponse décisive et surtout unie face au nouvel ordre mondial promu agressivement par les États-Unis.
Le soir, à Bruxelles, on reprend la balle au bon et s'interroge.
Les États-Unis se sont-ils mués en adversaires de l'Europe, peut-on encore appeler allié un État qui remet en cause unilatéralement ses engagements au sein de l'OTAN, voire menace de s'en prendre à l'intégrité territoriale d'un État, l'Ukraine, pour piller ses ressources naturelles, tout cela au pire moment de fragilité pour l'Europe confrontée à la menace existentielle posée par Vladimir Poutine. En fait, analyse le Corriere della Sera à Rome, Donald Trump, en moins d'un mois, nous a fait comprendre ce qu'il avait en tête, choquer le monde et voir ce qui se passe. Exclure l'Europe des négociations sur l'Ukraine est une insulte à l'OTAN. Récompenser l'agression de Poutine revient à accorder à la Russie le rôle de puissance dominante sur le continent. Venir à Munich et se moquer des libertés en Europe, comme l'a fait le vice-président J.D. Vance, est offensant.
En effet, précise l'OTAN à Genève, en une semaine, l'administration Trump a envoyé 3 signaux aux Européens.
Oui, les États-Unis sont prêts à abandonner l'allié ukrainien si ce dernier n'accepte pas de céder des territoires à l'ennemi et de livrer ses ressources pour rembourser sa dette, c'était mardi. Washington va négocier directement avec Moscou, c'était jeudi. Et la Maison-Blanche embrasse l'extrême droite, notamment en Allemagne, et s'immisce dans les processus électoraux en Europe, c'était vendredi. Alors, pour tenter de sauver le lien transatlantique, l'Europe doit à son tour user du langage de la force pour formuler un nouveau deal avec les États-Unis, affirme le temps. C'est dans ce but qu'Emmanuel Macron convoque en urgence un sommet ce lundi à Paris. Il s'agira d'abord de s'assurer de l'union des Européens face à ces nouveaux défis existentiels.
Et puis le Washington Post, pas franchement favorable au nouvel occupant de la Maison-Blanche, pointe également la brutalité et même l'incohérence de la diplomatie américaine.
L'administration Trump a entamé sa première semaine de négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine avec un ensemble étourdissant de signaux contradictoires qui ont déconcerté et inquiété les alliés européens de l'Amérique et qui ont semblé récompenser principalement le président russe, Vladimir Poutine. Des négociations pour le moins anarchiques, pointe encore le Post. Le message et les messagers ont changé presque tous les jours. Des concessions à Poutine ont été proposées puis retirées. L'administration américaine a semblé exclure le président ukrainien Zelensky puis le courtiser avant de l'écarter à nouveau. Il est probable que Trump ne sache pas trop où il va, s'exclame encore le Washington Post. Dans les négociations, il aime bombarder tous azimuts et lorsque les obus explosent, il redirige les tirs. Alors, conclut le Post, les négociations devraient s'accélérer cette semaine avec la rencontre prévue en Arabie Saoudite entre le secrétaire d'État Marco Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. À l'heure où nous écrivons ces lignes, conclut le quotidien américain, il semble qu'aucun représentant ukrainien de haut rang ne sera présent et c'est là un très mauvais signe.
La revue de presse internationale signée Frédéric Couteau. Merci Frédéric. c'est l'une des avancées technologiques majeures de ces dernières années, notamment rendue possible grâce à l'intelligence artificielle. La reconnaissance faciale, si elle est vite devenue monnaie courante dans certains pays comme la Chine, elle est en revanche interdite, par exemple dans les espaces publics en Europe. Pourtant, elle séduit de nombreux professionnels. Illustration ce lundi chez des commerçants britanniques qui l'utilisent face à une supposée montée de la délinquance. Mais sans contour juridique bien défini, les ONG s'inquiètent des bases de données utilisées composées de personnes jugées suspectes sans aucune validation des autorités. Reportage à Weymouth, ville balnéaire du sud de l'Angleterre, et à Londres de Marie Billon.
Dave est assis dans l'arrière-boutique de son magasin d'alimentation générale près de la gare de Weymouth. Il regarde l'enregistrement, qui date du mois de décembre, d'une femme en train de prendre des bouteilles d'alcool pour les mettre dans les poches de sa parka. Un superviseur l'a vu et est allé lui demander des comptes. C'est justement pour éviter ce genre de choses que Dave a installé FaceWatch, un logiciel de reconnaissance faciale, en juin 2023.
Avant FaceWatch, nous avions des vols 2-3 fois par jour, parfois plus. Il s'agissait souvent des mêmes personnes. Maintenant, nous en sommes à 2 ou 3 vols par semaine. Nous recevons des alertes de FaceWatch. Lorsque des voleurs qu'on a déjà repérés essaient encore d'entrer dans notre magasin, ils sont refoulés à la porte. Donc très souvent, cela évite qu'il y ait vol. Voici donc la caméra de surveillance avec FaceWatch. Elle prend un cliché, le compare avec une base de données. Si la personne correspond à la base de données, nous sommes alertés dans les 6 secondes qui suivent le passage de la porte.
Mais d'autres commerçants des alentours qui utilisent le même logiciel, FaceWatch, remplissent aussi leur propre base de données. Chris Jones est le chef exécutif de l'ONG pour les libertés publiques Statewatch. Du haut de la terrasse de son immeuble d'entreprise, Chris Jones surplombe Fleet Street, l'une des rues principales de la cité de Londres, le quartier financier. Il sait que les caméras sont partout, dans les rues, dans les commerces. Ce qui l'inquiète surtout, c'est le manque de régulation. Il pense au système de partage des informations qu'utilise par exemple Dave à Weymouth et les commerçants des alentours. Qui sont-ils pour punir une personne sans qu'elle ait été jugée et déclarée coupable ?
C'est très dangereux pour une société de voir les moyens de sécurité privée se multiplier à ce point, car il est censé y avoir un seul ensemble de lois pour tous, appliquées de manière égale par le système de justice pénale. Donc on s'est éloigne de plus en plus de l'idéal d'une société fondée sur l'état de droit.
Normalement, les commerces doivent préciser s'ils utilisent des caméras de surveillance et si la reconnaissance faciale est utilisée. Mais selon les ONG comme Statewatch, tous ne jouent pas le jeu et ne préviennent pas les clients qui ne peuvent alors pas donner leur consentement. Consentement qui se fait de facto, simplement en entrant dans le magasin. Marie Billon, Londres, RFI.
Reportage à retrouver sur notre application RFI Pure Radio. Nous sommes en ce lundi 17 février à la veille de la première phase du cessez-le-feu qui a mis un terme à la guerre longue de 66 jours entre Israël et le Hezbollah. Plus de 4000 morts et 16000 blessés en un peu plus de 2 mois au Liban. À l'expiration de cette phase, l'armée israélienne devrait avoir terminé son retrait du territoire, initialement fixé au 27 janvier, avant d'être prolongé à la demande d'Israël qui avait reçu le soutien des États-Unis. C'est le numéro de Paul Khalife que l'on a composé ce matin dans l'appel correspondant. Bonjour Paul.
Bonjour Nemo, bonjour tout le monde.
Correspondant de RFI à Beyrouth, Paul, comment se présente la situation sur le terrain à la veille de ce délai accordé à Israël ?
Nemo, la situation est confuse et incertaine. L'armée israélienne ne s'est pas encore totalement retirée du sud du Liban. Elle reste présente dans plusieurs localités, notamment dans les secteurs central et oriental de la frontière. Cette présence empêche le déploiement de l'armée libanaise jusqu'à la ligne bleue tracée en l'an 2000, après la fin de l'occupation du Sud qui avait duré 22 ans. L'armée libanaise essaye de son côté de remplir la mission qui lui est impartie. Elle a démantelé des dizaines d'infrastructures militaires du Hezbollah au sud du fleuve Litani. Elle a pris possession d'autres sites comme des bases et des tunnels souterrains. Elle a saisi d'importantes quantités d'armes et de munitions. Le retard dans l'application de toutes les clauses de l'accord de cessez-le-feu est indiscutable et il est peu probable qu'il puisse être rattrapé dans les quelques petites heures qui nous séparent de l'expiration du délai.
Surtout que l'armée israélienne a poursuivi ses activités et ses opérations et que les habitants ne sont toujours pas revenus.
Oui, l'aviation israélienne a mené dimanche soir une série de raids dans la plaine orientale de la Beka, non loin de la frontière avec la Syrie. Ces frappes sont intervenues moins de 24 heures après une attaque au drone qui a fait samedi, on le rappelle, 2 morts et plusieurs blessés dans le sud du Liban. Et toujours dans le sud, l'armée israélienne a ouvert le feu dimanche sur des habitants qui tentaient de rentrer dans la localité frontalière de Hawla, dans le secteur oriental. Une femme a été tuée, plusieurs personnes blessées et 2 secouristes capturés par les soldats israéliens. Ils ont été libérés quelques heures plus tard. Dans le même temps, les troupes israéliennes ont procédé à des opérations de dynamitage d'infrastructures militaires du Hezbollah ou de maisons de civils. Des sources libanaises estiment à 1 000 000 le nombre de maisons détruites ou incendiées par les Israéliens depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 27 novembre dernier.
Alors face à ce retard et avec toutes ces tensions, Paul, une question se pose, à quel scénario peut-on s'attendre ?
Nemo, les Israéliens vont probablement maintenir 5 positions à l'intérieur du territoire libanais sur des collines stratégiques qui vont de la Méditerranée jusqu'au contrefort du Golan syrien occupé. Les États-Unis, qui dirigent le comité de surveillance du cessez-le-feu, ne semblent pas s'opposer au plan israélien. Ce scénario est toutefois porteur de perspectives inquiétantes, surtout que le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Assem, a déclaré dimanche soir qu'Israël doit se retirer complètement du territoire libanais et qu'il n'y a aucune excuse qui pourrait lui permettre de rester. Le chef du Hezbollah a ajouté que l'État libanais ne doit pas accepter que l'armée israélienne reste, que ce soit en 5 positions stratégiques ou ailleurs.
Paul Khalife, correspondant de RFI à Beyrouth. Merci Paul. C'est le mode de transport le plus important pour l'économie actuelle. 90% des biens commercialisés sont encore aujourd'hui transportés par bateau, ce qui rend le secteur maritime responsable de près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'Organisation maritime internationale s'est donc fixé des objectifs de décarbonation. Mais alors, où en sont ces négociations ? C'est notre question d'environnement. Bonjour Pauline Glaise.
Bonjour.
Pauline, un groupe de travail se réunit à partir d'aujourd'hui pour des négociations intermédiaires.
Et plusieurs questions sont en discussion, dont des questions sur des normes, sur des questions techniques. Pour parvenir à l'objectif de neutralité vers 2050 et avant ça pour remplir les objectifs intermédiaires, au moins 20% de réduction en 2030, le choix d'un carburant alternatif au fioul lourd qui domine actuellement est en débat. Constance Destra de Transport et Environnement.
Il va y avoir un très gros débat sur qu'est-ce que c'est qu'un carburant propre. Est-ce que c'est un carburant qui serait à base de biomasse? Ou alors, est-ce qu'un carburant propre, c'est un carburant qui émet le moins de gaz à effet de serre possible et qui serait donc plus proche d'un carburant à base d'hydrogène vert?
En attendant, d'autres méthodes peuvent permettre de réduire l'empreinte carbone, réduire la vitesse par exemple.
Et l'un des enjeux pour les membres de l'OMI, Pauline, c'est également de s'entendre sur des mesures pour inciter financièrement les armateurs à agir.
Les deux visions s'opposent encore. Certains pays souhaitent que ces mesures économiques soient envolées des normes d'émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, les bateaux qui émettraient moins que la limite imposée pourraient vendre des quotas carbone à ceux qui les dépasseraient. L'autre option, eh bien, c'est une taxe. L'option défendue par Bastien Bonnet Cantaloube, cet expert de l'association Carbon Market Watch, voit dans une taxe à 100 ou 150 dollars la tonne de gaz à effet de serre la meilleure incitation à la décarbonation et un moyen de générer des revenus conséquents.
Ces revenus-là, ils vont être absolument clés pour répondre en fait à 2 objectifs de la stratégie de l'OMI. 1, récompenser les flottes de bateaux qui utilisent des carburants verts. Actuellement, il faut savoir que les carburants verts, ammoniac vert ou méthanol vert, sont beaucoup plus chers. Et de 2, il faut aussi répondre à l'urgence de financer une transition juste et équitable. Donc ça, c'est les mots de la stratégie de l'OMI, notamment pour protéger d'impact les pays les plus vulnérables.
Une taxe, c'est ce que souhaite l'Union européenne, des pays du Pacifique et certains États africains.
Certains pays d'Afrique font partie des pays les mieux positionnés pour faire face à certains des impacts d'augmentation de prix sur le commerce maritime, mais plus généralement aussi des impacts de la transition écologique ou du changement climatique de manière générale, et donc ils comprennent la nécessité d'avoir des revenus générés pour s'adapter et faire face à ces impacts-là.
Mais cette taxe pourrait renchérir les produits qui voyagent le plus. La Chine et l'Afrique du Sud ne souhaitent pas cette taxe internationale.
Merci Pauline Glaise.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
ils et elles sont originaires du Sénégal, du Mali, d'Afghanistan ou d'Albanie. Chaque mois, ils envoient de l'argent à leur famille restée au pays. Quelle dette symbolique lient ces immigrés à leurs parents, leurs frères et sœurs, mais aussi au pays qu'ils ont quitté.
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI. Le débat du jour, Romain Ozoui.
Géopolitique, environnement, société, économie, sport, nous abordons tous les sujets, nous confrontons tous les points de vue.
Non, mais je m'inscris en faux sur tout ce qui est dit à propos...
C'est pas vrai.
Ah, mais si, c'est un mensonge.
Ah, si, il y avait le logo. Ça paraît compliqué, là, pour le moment. Je crois qu'il faut plutôt savoir ce qu'il n'a pas fait.
Les plus grands spécialistes s'expriment sur ce qui fait l'actualité. Le débat du jour, c'est du lundi au jeudi à 17h30 TU sur RFI.